Chapitre 13. Leçon. Avant de former quelqu'un à l'art, il faut éliminer sa résistance à l'enseignement. Certains maîtres d'art tiennent qu'ils doivent apprendre à connaître chaque élève pendant un an et un jour avant de pouvoir seulement commencer leur éducation. À la fin de cette période, le professeur sait quels candidats sont prêts à recevoir son instruction. Les autres, aussi doués qu'ils aient pu paraître, sont alors rendus à leur existence précédente. D'autres maîtres affirment que cette technique est une perte de talent et de temps précieux, et ils choisissent une voie plus directe pour se débarrasser de la résistance des élèves, une voie qui s'appuie moins sur la confiance que sur l'obéissance à la volonté du formateur. Elle se fonde sur une austérité stricte qui doit inciter le disciple à satisfaire son maître. Les moyens employés pour parvenir à cette attitude de totale humilité sont le jeûne, l'inconfort, l'insuffisance de sommeil et la discipline. Cette méthode est recommandée en temps d'urgence, lorsqu'il faut composer et former des clans rapidement et en quantité. La qualité des artiseurs ainsi créés n'est peut-être pas exceptionnelle, mais on réussit de cette façon à utiliser presque tous les élèves qui possèdent un tant soit peu de talent. Observation. De Wemdel, compagnon du maître d'art Quillo. Un jour et une nuit encore, la guérisseuse du lignage maintint le prince de voir dans sa léthargie. Sire Doré se rongeait les sangs, malgré les efforts de Laurier pour le rassurer, en lui affirmant qu'elle avait déjà été témoin de ce procédé et que la vieille femme agissait uniquement dans l'intérêt du garçon. Pour ma part, j'enviais de voir. On ne me prodiguait nul réconfort, et c'est à peine si on m'adressait la parole. L'ostracisme dont j'étais frappé en était peut-être en partie responsable. Quand on n'accorde plus son soutien à une communauté, on perd soi-même le soutien de cette communauté. Mais ce n'était pas seulement de la cruauté due à leur rancœur. J'étais un paria, certes, mais aussi un adulte, et aux yeux des gens du lignage, je devais être capable d'affronter seul ma peine. Comme ils ne me connaissaient pas, ils n'avaient pas grand-chose à me dire et absolument rien à faire qui pût m'aider. Je sentais que le fou partageait ma douleur, mais seulement de façon diffuse. En tant que sire doré, il ne pouvait avoir avec moi que des échanges limités. La mort de mon loup me plongeait dans l'isolement et une sorte de torpeur, d'engourdissement. La disparition d'Œil de Nuit était un atroce déchirement, mais elle me privait en plus de l'accès à ses sens supérieurs. Les sons me paraissaient étouffés, la nuit ténébreuse, les odeurs et les goûts éteints. J'avais l'impression que le jour avait perdu tout éclat. Il m'avait abandonné dans un monde obscur et fade. Je bâtis un bûcher funéraire et brûlai le corps de mon loup. Les membres du lignage en furent manifestement choqués, mais c'était ma façon de prendre le deuil, et je m'y tins. À l'aide de mon poignard, je me coupais les cheveux et les jetais dans le feu en épaisses poignées noires et blanches. Une longue mèche aérienne, couleur d'or ambré, les accompagna. Comme Burick l'avait fait autrefois pour Renarde, je demeurai toute la journée devant le brasier et combattis la pluie qui s'efforçait de l'éteindre en rajoutant du bois chaque fois qu'il menaçait de mourir, jusqu'à ce que même les os du loup ne fussent plus que cendres. Le deuxième matin, la guérisseuse laissa le prince se réveiller. Assise près de lui, elle le surveilla pendant qu'il émergeait de sa stupeur. Je me tenais à l'écart, mais ne perdis pas une miette de la scène. Je vis la conscience lui revenir peu à peu, d'abord dans son regard, puis dans ses traits. Ses mains commencèrent à être agitées de petits mouvements nerveux, comme ceux d'un chat qui pelote, et la guérisseuse posa les siennes sur elle pour les calmer.
« Vous n'êtes pas la Marguette. La Marguette est morte. Vous êtes un homme, et vous devez continuer à vivre. Le bonheur du lignage, c'est que les animaux partagent leur existence avec nous. Son malheur, c'est que ces existences sont rarement aussi longues que les nôtres. »
Là-dessus, elle se leva et s'éloigna sans un mot de plus. Peu après, Fradecerre et ses compagnons montèrent en selle et s'en allèrent. Je remarquai que Laurier et lui prirent un moment pour s'entretenir en privé avant son départ, afin de réparer un lien familial rompu, peut-être. Humbre voudrait savoir ce qu'il s'était dit, mais j'étais trop accablé pour chercher à écouter leur conversation. Dans leur fuite, les pies avaient laissé plusieurs montures au bivouac, et les membres du lignage nous en donnèrent une pour le prince. C'était un petit cheval gris louvet, au tempérament aussi morne que sa robe, ce qui convenait parfaitement à l'état d'esprit du prince, tout comme la bruine qui tombait. Avant midi, nous nous mîmes en selle à notre tour et reprîmes le chemin de Castelserre. Je chevauchais aux côtés du prince, sur ma noire qui s'était en grande partie remise de sa claudication. La grand-veneuse et Sire Doré nous précédaient. Ils discutaient entre eux, et je n'arrivais pas à suivre leur conversation. Ils ne parlaient pourtant pas à voix basse. Je crois plutôt que mon incapacité provenait de ma propre insensibilité. Je me sentais hébété, l'esprit embrumé, à demi aveugle. Je me savais vivant à cause de mes blessures qui me faisaient mal et de la pluie qui me glaçait. Mais le reste du monde, toute sensation et tout sentiment étaient morts. Je ne marchais plus sans peur dans les ténèbres. La brise ne me parlait plus d'un lapin sur le flanc d'une colline, ni d'un chevreuil qui avait traversé la piste un peu plus tôt. Les aliments avaient perdu toute saveur. Le prince ne valait guère mieux que moi. Il supportait sa peine avec autant de grâce que moi, muet et la mine revêche. Un mur de reproches se dressait entre nous sans que nous eussions à prononcer une seule parole. Sans lui, mon loup aurait été encore vivant, ou du moins, il serait mort dans de meilleures conditions. Quant à moi, j'avais tué sa Marguette sous ses yeux. Le pire, je ne saurais dire pourquoi, était qu'un fil d'art arachnéen nous unissait encore, et je ne pouvais le regarder sans percevoir aussitôt le terrible chagrin qui le terrassait. De son côté, il captait sans doute ma rancœur inexprimée. Je savais mon ressentiment injuste, mais j'étais trop immergé dans ma douleur pour faire preuve d'équité. Si le prince était resté fidèle à son nom et à son devoir, s'il était demeuré à Castelserre, sa Marguette serait toujours en vie, et mon loup aussi. Ainsi raisonnais-je, mais sans jamais énoncer mes réflexions tout haut. C'était inutile. Le voyage de retour à Castelserre fut sinistre pour chacun de nous. Revenus à la route, nous l'empruntâmes vers le nord. Aucun d'entre nous n'avait envie de revoir Alerbie, ni l'auberge du Prince Pie. Et malgré les assurances de Fradecerre que Dame Brézinga et sa famille n'avaient en rien trempé dans le complot contre le prince, nous restâmes à l'écart de leurs terres et de leurs résidences. La pluie tombait sans discontinuer. Les gens du lignage nous avaient laissé autant de vivres qu'ils pouvaient, mais ce n'était guère. Dans la première bourgade que nous rencontrâmes, nous passâmes la nuit dans une auberge lugubre, où Sire Doré paya une somme plus que généreuse pour qu'un messager porte un manuscrit le plus vite possible à son « cousin » de Bourg de Castelserre. Après cela, nous prîmes les chemins de traverse en direction du hameau le plus proche, qui offrait un bac pour franchir la serre, et les détours auxquels nous obligea la géographie de la région nous firent perdre 2 jours où nous campâmes sous la pluie, mangeâmes nos maigres rations et dormîmes dans le froid et l'humidité. Je le savais, le fou suivait avec angoisse le décompte des jours qui nous séparaient de la pleine lune et de la cérémonie de fiançailles du prince. Pourtant, nous progressions avec lenteur, et je soupçonnais Sire Doré de vouloir donner le temps à son messager d'atteindre Castelserre et d'annoncer à la reine les conditions de notre retour. Peut-être aussi essayait-il de nous laisser un délai, au prince et à moi, pour effectuer notre deuil avant de retrouver le bruit et les lumières de la cour. Si l'on ne meurt pas d'une blessure, on guérit d'une façon ou d'une autre, et il en va de même pour le chagrin. De la terrible douleur de l'instant de la séparation, nous passâmes tous deux dans les jours grisâtres de la stupeur et de l'attente hébétée. C'est toujours ainsi que m'est apparu le chagrin. Comme un temps où l'on attend, non que la souffrance s'efface, mais que l'on s'y habitue. Pour ne rien arranger à mon humeur, Sire Doré et Laurier ne partageaient manifestement pas l'impression de solitude et de monotonie que nous éprouvions, le prince et moi. Ils chevauchaient devant nous, étriers contre étriers, et sans aller jusqu'à éclater de rire ou entonner de joyeuses chansons de route, ils bavardaient presque sans arrêt et paraissaient prendre grand plaisir à leur compagnie mutuelle. Je me répétais que je n'avais nul besoin d'une bonne d'enfant et qu'il y avait d'excellentes raisons pour que le fou et moi ne trahissions pas notre profonde amitié devant Laurier ni Devoir. N'empêche que, dans ma tourmente de solitude et de douleur, je n'arrivais pas à éprouver un sentiment moins violent que la rancœur. 3 jours avant la nouvelle lune, nous arrivâmes à Guéneuf. Comme le nom l'indiquait, on y trouvait un gué, ainsi qu'un bac qui n'existait pas la dernière fois que j'étais passé dans la région. Un grand chantier naval s'était ouvert, qui abritait toute une flottille de péniches à fond plat. La petite ville dont il dépendait était nouvelle, elle aussi, et d'apparence mal dégrossie avec ses maisons et ses entrepôts en bois tout juste équarris. Sans nous attarder à la visiter, nous nous rendîmes directement à l'appontement et attendîmes sous la pluie le bac du soir où nous embarquâmes enfin. Les rênes de sa terne monture entre les mains, le prince regardait le fleuve sans le voir. Les pluies récentes avaient gonflé les eaux limoneuses et pourtant j'étais incapable de trouver en moi assez d'amour de la vie pour avoir peur de la mort. Les embardés qui ralentissaient les bateliers dans leurs efforts pour lutter contre le courant ne m'apparaissaient que comme de simples sources de retard. « Retard ?» me dis-je soudain avec ironie. « Et qu'est-ce qui m'attendait donc pour que je me précipite avec tant de hâte? Une maison? Un foyer? Une épouse? Des enfants ?»« Il te reste heure, » me dis-je. Et aussitôt après, je songeais que c'était faux. Heure était désormais un jeune homme qui volait de ses propres ailes. Me raccrocher à lui, centrer ma vie sur lui, aurait été me conduire comme une sangsue. Mais alors, qui étais-je donc, à présent que j'étais seul, privé de tous? Difficile question. Le bac eut un brusque sursaut en raclant le gravier, et puis des hommes le tirèrent pour le rapprocher de la rive. Nous avions franchi le fleuve, et Castelserre ne se trouvait plus qu'à une journée de cheval. Quelque part au-dessus des épais nuages brillait encore le mince croissant de la lune. Nous atteindrions Castelserre avant la cérémonie de fiançailles du prince. Nous avions réussi. Pourtant, je n'éprouvais aucun sentiment d'exaltation. Je n'avais même pas l'impression réconfortante d'avoir mené une tâche à bien. J'avais seulement envie que ce voyage s'achève. Il pleuvait à torrents quand nous touchâmes l'appontement, et Sire Doré décréta que nous n'irions pas plus loin ce soir-là. L'auberge où nous nous arrêtâmes était plus vieille que la ville de l'autre berge. La pluie qui tombait en cataracte masquait les autres bâtiments du hameau, mais il me sembla distinguer une petite écurie de chevaux de louage, et derrière elle, un semis d'habitation. L'établissement avait pour enseigne un ancien gouvernail sur lequel on avait peint un aviron. Et la charpente de ses murs apparaissait grisée par les intempéries, là où la chaux s'était effacée. Le temps épouvantable l'avait remplie de voyageurs, et elle était quasiment complète. En outre, Sire Doré et ses compagnons avaient un aspect trop dépenaillé pour invoquer les prétentions de l'aristocratie. Heureusement, le gentilhomme avait assez d'argent dans sa bourse pour acheter le respect et l'humilité du propriétaire. Il se présenta comme Kestrel, marchand de son titre, et réussit à nous obtenir 2 chambres, quoique l'une d'elles se trouvât dans les combles. Sa sœur déclara élégamment qu'elle lui conviendrait admirablement et qu'elle laissa l'autre au marchand et à ses 2 serviteurs. Si le prince éprouvait quelque gêne à voyager sous une fausse identité, il n'en manifesta rien. Le capuchon de son manteau rabattu sur le visage, il resta sous l'auvent en ma compagnie, dégouttant de pluie, en attendant qu'un employé de l'auberge vienne nous avertir que la chambre de notre maître était prête. En franchissant l'entrée, j'entendis une femme qui chantait d'une voix limpide dans la salle commune. « Évidemment, » me dis-je, « évidemment, qui d'autre qu'une ménestrelle pouvait mieux monter la garde dans une hostellerie ?» Astérie interprétait l'ancien lait des 2 amants qui, plutôt que de renoncer à leur amour, se rebellent contre leur famille, s'enfuient et se précipitent ensemble du haut d'une falaise. Je passais devant la salle sans même y jeter un coup d'œil, mais Laurier s'était arrêté à la porte pour écouter la chanson. Apathique, le prince me suivit dans les escaliers et nous pénétrâmes dans une chambre spacieuse mais rustique. Sire Doré nous y avait précédés. Un serviteur de l'auberge préparait le feu, tandis que 2 autres installaient une baignoire dans un angle de la pièce et la dissimulaient derrière des paravents. 2 grands lits occupaient la chambre, ainsi qu'une paillasse près de la porte, et une fenêtre perçait un des murs. Le prince s'en approcha d'un air morose et se perdit dans la contemplation de la nuit. Un porte-manteau se dressait près de l'âtre, et je jouais mon rôle de valet en débarrassant Sire Doré de son manteau sale et trempé. J'ôtai aussi le mien, pendis les deux vêtements pour qu'ils sèchent à la chaleur du feu, puis je retirai les bottes de mon maître, alors qu'un flot continu de serviteurs apportait des seaux d'eau chaude et de quoi nous restaurer, tourtes à la viande, fruits étuvés, pain et bière. Comme des vagues sur une grève, ils entraient et sortaient sans cesse, et la précision de leurs gestes et de leurs déplacements m'évoquait celle d'une troupe de jongleurs. Quand le dernier eut enfin quitté la pièce, je fermai la porte. La baignoire pleine exhalait des arômes d'herbe de bain, et je rêvais soudain de m'y allonger pour tout oublier. La voix de Cire Dorée me ramena à la réalité.
« Mon prince, votre bain est prêt. Désirez-vous de l'aide ?»
Devoir redressa les épaules, et son manteau tomba sur le plancher avec un claquement mouillé. Il le regarda un instant, puis le ramassa, se dirigea vers la cheminée et l'accrocha à une patère. Tout dans son attitude indiquait l'adolescent habitué à s'occuper seul de ses propres affaires.
« Je n'ai pas besoin d'aide, merci, »
dit-il à mi-voix. Il jeta un coup d'œil au plat fumant disposé sur la table.
« Ne m'attendez pas. Je ne suis pas à cheval sur l'étiquette. Il est inutile que vous restiez le ventre vide pendant que je prends mon bain. »
« Je reconnais bien là le fils de votre père, » fit Cire Dorée d'un ton approbateur.
Le prince accepta le compliment en inclinant gravement la tête, mais ce fut sa seule réaction. Le seigneur Doré attendit que le prince de Voir fût passé derrière les paravents, puis il s'assit à une petite table, prit du papier, de l'encre et une plume qu'il s'était procurée auprès du propriétaire, et se mit à écrire en silence. Je m'approchai de l'âtre avec, à la main, une tourte que je mangeais debout tout en laissant la chaleur évaporer un peu de l'humidité de mes vêtements. Alors qu'il rédigeait la dernière ligne de sa missive, Cire Dorée déclara
« Eh bien, au moins, nous sommes provisoirement à l'abri du mauvais temps. Nous allons en profiter pour bien nous reposer cette nuit, puis nous repartirons demain matin, mais pas trop tôt. Cela vous convient-il, Tom ?»«
Comme il vous plaira, monseigneur, » répondis-je, tandis qu'il soufflait sur l'encre pour la faire sécher, puis roulait le manuscrit et le nouait à l'aide d'un fil tiré de son manteau à la splendeur évanouie. Il me le tendit d'un air interrogateur. Je ne me mépris pas sur son expression. « J'aimerais autant m'en dispenser, » dis-je très bas. Il quitta sa table, se dirigea vers celle du repas et entreprit de se servir en faisant exprès d'entrechoquer la vaisselle. Profitant du bruit, il murmura.
« Et j'aimerais me dispenser de t'envoyer, mais c'est impossible. » Malgré mon aspect dépenaillé, le risque existe qu'on reconnaisse Cire Dorée et qu'on remarque son intérêt pour la ménestrelle. J'ai accumulé assez de scandales sur mon nom pendant ce voyage. Rappelle-toi ma conduite à Castelmyrte. Il va falloir que je m'en explique une fois revenu à la cour. Devoir non plus ne peut pas se charger de cette mission, et autant que je le sache, Laurier ignore notre relation avec Astérie. Notre amie ménestrelle la reconnaîtrait peut-être, mais s'étonnerait de recevoir un billet d'elle. Il faut donc que tu t'en occupes, malheureusement.
Malheureusement, en effet. J'étais d'accord avec lui, tout en me méfiant de la partie perfide de moi-même, qui désirait, ardemment, elle, que je descende pour accrocher le regard de la ménestrelle. Dans la personnalité de chacun, il existe une facette prête à tout pour tenir la solitude à distance. Ce n'est pas obligatoirement la plus lâche, mais j'ai vu beaucoup d'hommes se laisser aller aux pires abjections pour la satisfaire. Pire encore, je me demandais si le fou ne me chargeait pas de cette mission de propos délibérés. Par le passé déjà, alors que l'isolement menaçait de me dévorer le cœur, il avait indiqué à la ménestrelle où me chercher. Le réconfort que j'avais trouvé entre les bras d'Astérie n'était en définitive qu'une illusion, et j'avais juré qu'on ne m'y prendrait plus. J'acceptais néanmoins le manuscrit et le glissais dans ma manche humide avec l'aisance et le naturel que confèrent de longues années de pratique de l'art de la dissimulation. Les plumes ramassées sur la plage au trésor se cachaient là aussi, attachées à mon avant-bras. Ce secret-là, au moins, demeurait le mien, et cela jusqu'à ce que j'aie le loisir de le partager en privé avec le fou.
« Je vous vois agité, malgré notre longue route, » dit Cire Dorée à haute voix, en cessant de faire du bruit. « Descendez donc, Tom. Le prince et moi saurons nous débrouiller le temps d'une soirée, et vous méritez bien de vous détendre devant une chope en écoutant quelques chansons. Allez, allez, j'ai bien vu le regard d'envie que vous avez jeté sur la salle commune en montant. Cela ne nous déroge pas. »
Je me demandais qui il croyait tromper. Le prince devait se douter qu'il n'y avait de place dans mon cœur que pour le chagrin, et chez l'épi, il avait bien vu Sire Doré se plier à mes ordres et s'en aller en compagnie du loup. Néanmoins, je remerciai mon maître de sa permission à haute et intelligible voix et sortis. Peut-être étions-nous dans une pièce de théâtre où chacun jouait la comédie aux autres. Je descendis lentement les escaliers et croisai Laurier qui montait. Elle me jeta un regard empreint de curiosité et je cherchai quelques mots à lui dire, mais rien ne me vint à l'esprit. Je passai près d'elle en silence, sans intention de la vexer, mais incapable de me soucier qu'elle s'offusquât de mon attitude. Je l'entendis s'arrêter dans les marches au-dessus de moi, comme pour parler, mais je poursuivis mon chemin. La salle commune grouillait de monde. Certains clients étaient là pour la musique, car Astérie jouissait désormais d'une prestigieuse réputation, mais beaucoup d'autres, apparemment, ne cherchaient qu'à se protéger de la pluie sans avoir les moyens de payer une chambre. Ils allaient profiter du divertissement offert par la ménestrelle, puis, après la musique, ils attendraient la fin du déluge en somnolant sur les bancs. Grâce à la promesse que mon maître réglerait la note le lendemain matin, j'obtins de quoi manger et une chope de bière que j'emportai jusqu'à une table d'angle, près de la cheminée, légèrement en retrait d'Astérie. Sa présence ne devait rien au hasard, je le savais. Elle guettait notre retour et avait sans doute un oiseau messager à sa disposition pour transmettre la nouvelle de notre passage à Castelserre. Je ne m'étonnais donc pas qu'elle feignît de ne pas me remarquer et continua son récital. Au bout de 3 chansons, elle déclara qu'elle devait reposer sa voix et se désaltérer. Le serviteur qui apportait son vin le posa sur le coin de ma table, et quand elle s'assit pour boire, je lui passai discrètement le message du Seigneur Doré. Puis, je terminai mon fond de bière et me rendis aux latrines, à l'extérieur du bâtiment. Quand je revins à l'auberge, elle m'attendait sous l'avancée du toit, derrière un rideau de pluie.
« Le message est parti, » me dit-elle.
Je vais l'annoncer à mon maître. Elle saisit ma manche alors que je m'apprêtais à rentrer dans la salle. Je m'arrêtai.
« Raconte-moi !»
fit-elle à mi-voix. Une vieille habitude de prudence, profondément ancrée, retint ma langue. J'ignorais jusqu'à quel point Humbre l'avait mise dans le secret de la situation. La mission est achevée.
« Je m'en doutais, figure-toi » répondit-elle d'un ton acerbe. Puis elle poussa un soupir. « Et je me garderai bien de te demander en quoi consistait la mission de Sire Doré. Mais parle-moi de toi. Tu as une mine épouvantable. Tes cheveux sont coupés n'importe comment, tes vêtements en lambeaux. Que s'est-il passé ?»
De tous les événements que j'avais vécus, il en était un seul que je pouvais évoquer à mon gré. « Œil de nuit est mort, » dis-je. Le bruit de la pluie combla le silence qui s'abattit entre nous. Enfin, Astérie soupira longuement et me serra contre elle.
« Oh, Fitz !» murmura-t-elle, en posant la tête contre ma poitrine éraflée.
Je distinguais la raie pâle qui séparait sa chevelure et je respirais l'odeur de son parfum et du vin qu'elle avait bu. Elle me caressait le dos à gestes apaisants.
« Te voici de nouveau sale. Ce n'est pas juste, ce n'est vraiment pas juste. » Je ne connais pas de chanson qui décrive existence plus triste que la tienne. »
Une rafale de vent nous aspergea de pluie, mais Astérie me tenait toujours dans ses bras et une légère chaleur naissait entre nous. Elle se tut un long moment et je levai les mains pour les placer autour de sa taille. Comme autrefois, cette réaction me paraissait inévitable. La bouche contre ma poitrine, elle dit
« J'ai une chambre ici, à l'extrémité de l'auberge qui donne sur le fleuve. Viens m'y retrouver. » Que je te débarrasse de ta peine.
Je... Merci. J'avais envie de répondre que rien ne réparerait la perte de mon loup. Si elle m'avait connu un tant soit peu, elle l'aurait su. Mais si elle était incapable de le percevoir par elle-même, toutes mes explications n'y changeraient rien. Je fus soudain reconnaissant au fou de son silence et de sa distance. Il avait compris, lui, qu'aucune intimité de substitution ne remplacerait celle de mon loup. La pluie tombait toujours. Astérie relâcha son étreinte et leva les yeux vers moi, le front barré d'un pli.
« Tu ne viendras pas me rejoindre ce soir, n'est-ce pas ?»
Elle avait l'air stupéfaite.
« C'est curieux.
J'hésitais jusque-là, mais la façon même dont elle tourna sa question me permit d'y répondre correctement. Je secouai lentement la tête. « Je te remercie de ton invitation, mais cela ne changerait rien. »« En es-tu sûr ?» Elle avait essayé de prendre un ton léger, mais sans succès. Elle se déplaça et sa poitrine m'effleura d'une manière qui n'avait de fortuit que l'apparence. Je m'écartai d'elle en laissant mes bras retomber le long de mes flancs. « Oui, je ne suis pas amoureux de toi, Astéri. Pas ainsi. » « Il me semble que tu m'as déjà dit ça, il y a longtemps. Pourtant, ça t'avait aidé pendant des années. Ça avait été efficace. » Elle scrutait mes traits, un sourire assuré sur les lèvres. « Non, cela n'avait pas été efficace. Je l'avais seulement cru. » J'aurais pu lui faire cette réponse, mais cela aurait été d'une brutalité inutile. Je me contentais de déclarer « Sire Doré m'attend, je dois remonter. » Elle secoua la tête. Quelle fin lamentable pour une histoire triste. Et dire qu'il m'est interdit de la chanter alors que je suis la seule à en connaître tous les détails. Quelle lait tragique elle ferait. Le fils d'un roi sacrifie son existence entière pour la famille de son père, tout ça pour finir comme valet, soumis au mauvais traitement d'un gentilhomme étranger bouffi d'orgueil. Il ne t'habille même pas convenablement. Tu dois souffrir mort et passion d'une telle ignominie. Elle me regardait dans les yeux, en quête de quoi? De rancœur? D'indignation? Ça ne me dérange pas vraiment, répondis-je sans bien comprendre où elle voulait en venir. Et puis, soudain, comme si un rideau venait d'être tiré pour laisser entrer la lumière, le jour se fit en moi. Elle ignorait que le fou et Sire Doré ne faisaient qu'un. Elle était convaincue que j'étais son domestique et que c'était en son nom que je lui avais transmis le message. Malgré toute sa subtilité, elle ne voyait en lui qu'un noble jamaïlien fortuné. Je réprimai un sourire. La place me convient parfaitement, et je remercie Imbre de me l'avoir obtenue. Je suis satisfait d'être Tom Blaireau. L'espace d'un instant, elle parut ne pas en croire ses oreilles. Puis l'incrédulité s'effaça devant la déception, et elle eut un petit hochement de tête dégoûté. J'aurais dû m'en douter. Ça a toujours été ton rêve le plus cher, n'est-ce pas? Avoir ta petite existence à toi, n'être en rien responsable de ta lignée, ni des événements de la cour, faire partie des petites gens, ne laisser aucune trace dans l'histoire. Je commençais à regretter les scrupules qui m'avaient interdit de froisser sa sensibilité un peu plus tôt. « Je dois remonter, » répétai-je. « C'est ça! Cours au pied de ton maître !» Dans sa voix exercée, le mépris dansait comme le dard d'un scorpion. Je fis un grand effort de volonté pour ne pas répondre et rentrai dans l'auberge. Je remontai à la chambre par l'escalier de service, toquai à la porte et entrai. Devoir leva la tête de son oreiller. Ses cheveux sombres et humides étaient ramenés en arrière et le bain avait rendu des couleurs à son teint. Il avait l'air très jeune. Le lit du fou était vide. « Mon prince, » fis-je en guise de salutation. « Sire Doré ?» lançai-je dans la direction de la baignoire derrière les paravents. Il est sorti. Devoir laissa retomber sa tête sur son oreiller. Laurier a frappé à la porte et a demandé à lui parler en privé. Hein. Je faillis sourire. Voilà qui aurait sans doute intrigué Astéri. Il m'a prié de vous signaler que nous vous avions laissé la baignoire pleine et que vous deviez déposer vos vêtements dans le couloir devant la porte. Il a pris des dispositions pour qu'on les lave et qu'on vous les rende avant le matin. Merci, mon prince. C'est grande bonté de votre part de me prévenir. Verrouillez la porte, je vous prie. Il a dit qu'il frapperait pour vous réveiller à son retour. Comme il vous plaira, Majesté. J'obéis en songeant qu'il serait étonnant que le fou revînt avant l'aube. Avez-vous besoin d'autre chose avant que je prenne mon bain, mon prince? Non. Et cessez de vous adresser à moi de cette façon. Il se tourna dos à moi et se renfonça dans son lit. Je me déshabillai. Je détachai les plumes liées à mon avant-bras et les retirai en même temps que ma chemise. Puis je m'assis sur ma paillasse et, avant d'ôter mes bottes, Je glissai discrètement les ornements de la plage au trésor sous ma mince couverture. Je dénouai l'amulette de Gina de mon cou et la déposai sur l'oreiller, puis j'allai placer mes vêtements dans le couloir, remis le verrou à la porte et me dirigeai vers la baignoire. Comme j'entrais dans l'eau, la voix de Devoir s'éleva. « Vous ne me demandez pas pourquoi ?» Le bain s'était un peu refroidi, mais il restait beaucoup plus chaud que la pluie qui m'avait transpercé toute la journée. Je défis le bandage que la guérisseuse m'avait enroulé autour du cou. Les entailles qui zébraient mon ventre et ma poitrine me cuisirent au contact de l'eau. Puis la douleur s'apaisa, et je m'enfonçai jusqu'aux oreilles.
J'ai dit « Vous ne me demandez pas pourquoi ?»«
Je suppose que vous ne voulez pas que je vous appelle mon prince, prince Devoir. » L'onguent étalé sur mes blessures fondait sous la chaleur de l'eau et l'air s'emplissait de son parfum aromatique, mélange de racines d'or et de myrrhe. Je fermai les yeux et mis la tête sous l'eau. En émergeant, je pris du savon dans un bol laissé à l'intention du prince et en frictionnai ce qui restait de ma tignasse. J'observai le jus brunâtre qui en dégouttait et se dissolvait dans le bain, puis m'immergeai de nouveau pour rincer mes cheveux.
« Vous n'avez pas à me remercier, à me servir, ni à obéir à mes ordres. Je sais qui vous êtes, et votre sang vaut le mien. »
Me réjouissant de la présence des paravents entre nous, je m'efforçai de réfléchir, tout en m'aspergeant à grand bruit, dans l'espoir de lui faire croire que je n'avais rien entendu. Quand il a commencé à m'enseigner l'art, Umbre me parlait souvent d'un autre garçon qu'il avait formé. Un garçon têtu comme une mule, mais aussi très doué. « Quand mon premier apprenti avait votre âge, » me disait-il toujours. Et puis, il me racontait les tours que vous avez joués aux lavandières, ou l'histoire des ciseaux de la couturière que vous avez cachés pour la faire tourner en bourrique. Vous aviez une belette à l'époque, n'est-ce pas ?
Rôdeur appartenait en réalité à Umbre.
Quant aux ciseaux de maîtresse pressée, je les avais dérobés sur son ordre, afin de m'exercer au vol et à la discrétion, partie intégrante de ma formation d'assassin. Mais Umbre n'en avait pas informé le prince, du moins, je l'espérais. J'avais la bouche sèche. Je continuais à m'éclabousser bruyamment en attendant que Devoir poursuive.
« Vous êtes son fils, n'est-ce pas ? Vous êtes le fils d'Umbre ? Ce qui fait de vous mon cousin par alliance ?
De la main gauche,
mais cousin malgré tout. De même, je pense avoir deviné qui était votre mère. C'est une dame dont on entend encore parler, quoique personne ne sache grand-chose sur elle, apparemment. Dame Tain. »
Je dissimulai l'éclat de rire qui m'échappa sous une quinte de toux. Le fils d'Umbre et de Dame Tain. Voilà une ascendance qui m'allait comme un gant. Dame Tain, vieille mégère détestable, était une invention d'Umbre. Un génial déguisement quand il souhaitait se déplacer sans être reconnu. Je m'éclaircis la gorge et retrouvai mon sang-froid.
« Non, mon prince, vous vous trompez lourdement. »
Il se tut tandis que j'achevais ma toilette. Je quittai la baignoire, me séchai et sortis de derrière les paravents. Une chemise de nuit était étendue sur la paillasse comme d'habitude, le fou avait pensé à tout. Comme je commençais à l'enfiler, le prince me dit
« Vous êtes couturier de cicatrices.
Comment les avez-vous reçues ?»
En posant des questions à des gens mal lunés, mon prince. Vous vous exprimez même comme Umbre.
On n'avait jamais rien affirmé sur moi de plus erroné et de plus désagréable.
Et depuis quand êtes-vous si bavard ?
Ripostai-je.
Depuis qu'il n'y a plus personne pour nous surveiller. Naturellement, vous savez que Cire Dorée et Laurier sont des espions, n'est-ce pas ? L'un pour le comte d'Umbre et l'autre pour celui de ma mère.
Son intelligence allait lui jouer des tours. Il lui faudrait apprendre à se montrer plus prudent s'il voulait survivre à la cour. Je me tournai vers lui et le regardai dans les yeux. Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne suis pas un espion, moi aussi ?
Il éclata d'un rire ironique. Vous êtes trop grossier. Vous vous fichez de savoir si je vous apprécie ou non. Vous ne cherchez pas à gagner ma confiance ni ma faveur. Vous ne me manifestez aucun respect. Vous ne me flattez jamais. »
Il croisa les doigts et plaça ses mains derrière sa nuque.
« Et vous n'avez pas l'air inquiet à l'idée que je vous fasse pendre pour m'avoir malmené lorsque nous étions sur l'île. »
Il n'y a qu'un membre de sa propre famille qu'on peut ainsi brutaliser sans en craindre les conséquences. Il pencha la tête, et je vis dans son regard ce que je redoutais le plus. Derrière les spéculations se cachait un besoin dévorant de compagnie. Comme des larmes de sang, de ses yeux coulait une solitude insupportable. Bien des années plus tôt, alors que Burick m'avait séparé de force du premier chien avec lequel je m'étais lié, je m'étais raccroché à lui. Je craignais le maître d'écurie, je le haïssais même, mais j'avais par-dessus tout besoin de lui. Il m'avait été nécessaire de m'attacher à quelqu'un sur qui compter, quelqu'un de toujours disponible. Il paraît que ce genre d'exigence est commun à tous les jeunes. Je crois pourtant que les miennes dépassaient le simple besoin de stabilité que peut éprouver un enfant. J'avais connu le contact absolu que procure le vif, et me retrouver isolé dans mon esprit m'était intolérable. Je me rassurais en songeant que l'intérêt soudain du prince pour moi ressortissait davantage à l'effet de l'amulette de Gina qu'à une considération réelle pour moi, jusqu'au moment où je me rendis compte que le charme n'était plus à mon cou, mais reposait sur mon oreiller. « Je travaille pour Imbre, » dis-je vivement et sans détour. Je ne voulais ni faux-semblant, ni hypocrisie. Je ne voulais pas qu'il s'attache à moi en me prenant pour celui que je n'étais pas. Naturellement, il vous a envoyé chercher pour moi. Il disait qu'il essaierait de trouver quelqu'un. Ce doit être vous, la personne capable de m'enseigner l'art mieux que lui. Décidément, la langue d'Imbre se déliait un peu trop avec l'âge. Devoir se redressa sur son lit et reprit son raisonnement en s'aidant de ses doigts pour pointer chaque élément. J'en profitai pour l'observer attentivement. Les privations et le chagrin avaient dessiné des cernes sombres sous ses yeux et creusé ses joues, mais il s'était rendu compte au cours de la dernière journée qu'il survivrait. Il leva un doigt. « Vous avez le type loin voyant. Les yeux, la ligne de la mâchoire, pas le nez en revanche. J'ignore d'où il vous vient, mais il n'est pas de la famille. » Il leva un autre doigt. « L'art est la magie des loin-voyants, et je vous ai senti l'employer au moins à deux reprises. » Troisième doigt. « Vous appelez Imbre, Imbre, non, sire Imbre, ni conseiller Imbre. En outre, je vous ai entendu dire Kétriken en parlant de ma mère. Même pas la reine Kétriken. Mais Kétriken tout court, comme si vous aviez passé votre enfance ensemble. » C'était peut-être le cas. Quant à mon nez, ma foi, il me venait bel et bien d'un loin voyant. C'était un souvenir que m'avait laissé Royal de mon séjour dans ses geôles. Je m'approchai du candélabre posé sur la table et soufflai toutes les bougies sauf une. Conscient du regard de devoir qui me suivait, je regagnai ma paillasse et m'y assis. Basse et dure, elle se trouvait près de la porte, d'où je pourrais veiller sur mes nobles maîtres. Je m'y étendis. « Eh bien ?» fit Devoir insistant. « Eh bien, je vais dormir, » répondis-je, d'un ton qui indiquait que la discussion était close. Il eut un petit rire dédaigneux. Un vrai domestique m'aurait demandé la permission d'éteindre et de se coucher. « Bonne nuit, Tom Blaireau loin voyant. » « Dormez bien, mon gracieux prince. » Il eut encore un petit rire moqueur, puis le silence tomba, rompu seulement par le grondement de la pluie sur le toit et dans la cour en terre battue de l'auberge. Le silence, mis à part les crépitements de l'âtre et la musique étouffée qui montait de la salle commune. Le silence, hormis les pas mal assurés de clients qui regagnaient leur chambre. Mais surtout le silence qui tonnait dans mon cœur. Là où la présence d'œil de nuit avait si longtemps brillé, comme un phare inébranlable dans mes ténèbres, comme une flambée chaleureuse dans mon hiver, comme une étoile qui me guidait dans ma nuit. Mes rêves n'étaient plus que des successions illogiques de maigres éléments humains qu'un instant d'éveil suffisait à dissoudre. Les larmes s'accumulaient sous mes paupières closes. J'ouvris grand la bouche pour aspirer sans bruit une goulée d'air par ma gorge nouée. Puis, je m'allongeai sur le dos. J'entendis le prince se retourner dans son lit, puis se retourner encore. Enfin, très doucement, il se leva, s'approcha de la fenêtre et resta quelque temps perdu dans la contemplation de la pluie qui tombait dans la cour.
Est-ce que ça finit par passer ?
Il avait parlé très bas, mais je savais que la question s'adressait à moi. Je pris une longue inspiration pour empêcher ma voix de trembler.
Non. Jamais ?
Vous trouverez peut-être un autre compagnon un jour, mais on n'oublie jamais le premier. Il ne bougea pas.
Combien d'animaux de lien avez-vous eu ?
Je faillis ne pas répondre. Trois, dis-je enfin. Il tourna le dos à la nuit et me regarda dans la pénombre.
Y en aura-t-il un autre ?
Ça m'étonnerait. Il retourna dans son lit. Je l'entendis tirer les couvertures sur lui et s'y pelotonner. Je crus qu'il allait s'endormir, mais il demanda
« Allez-vous aussi m'enseigner le vif ?»
Il aurait été bon que quelqu'un se charge de lui, en effet, ne fût-ce que pour lui faire perdre l'habitude de se fier trop promptement au premier venu. « Je n'ai jamais dit que je vous apprendrais quoi que ce soit. » Il se tut un moment, puis déclara, d'un ton presque boudeur,
« Pourtant, il faudrait bien que quelqu'un me prenne en main. »
Un long silence s'ensuivit, et j'espérais qu'il s'était assoupi. L'écho inquiétant que ses propos avaient éveillé en moi me troublait. La pluie claquait contre le renflement convoluté qui déformait la vitre, et les ténèbres se déversaient dans la chambre. Je fermai les yeux et me concentrai. Puis, avec autant de précaution que si je manipulais des morceaux de verre, je dirigeai ma conscience vers le prince. Il était là, immobile, étendu comme un félin ramassé sur lui-même. Je le sentis qui me guettait, sans pourtant percevoir ma présence aux limites de son esprit. Informe, son art était un instrument grossier et brut. Je me reculai un peu pour étudier le garçon sur toutes les coutures, comme un poulain que j'envisagerais de débourrer. Sa méfiance, mélange d'appréhension et d'hostilité, constituait à la fois une arme et un bouclier dont il se servait sans adresse. En outre, son art n'était pas pur. C'était difficile à décrire, mais il m'évoquait un phare blanc encadré d'une obscurité verte, et c'était la vigilance que lui donnait le vif qu'il employait pour étudier ce qui l'entourait. Le vif n'établit pas de contact entre l'esprit de deux hommes, mais il peut percevoir l'animal qu'habite la conscience d'un humain, et il en allait ainsi pour devoir. Privé de la marguette comme point de concentration, son vif formait une trame largement déployée à la recherche d'une âme sœur, tout comme le mien, je m'en rendis compte soudain. Je me reculai précipitamment et regagnai mon corps, où je dressais mes murailles mentales contre les tâtonnements maladroits de son art. Je dus cependant reconnaître deux faits indéniables. D'abord, le fil d'art qui me reliait à devoir se renforçait chaque fois que je me risquais à l'emprunter. Et ensuite, j'ignorais comment le couper. À plus forte raison, je ne savais pas comment effacer l'ordre d'art que j'avais gravé en lui. Si les deux premiers éléments m'inquiétaient, ce dernier me plongeait dans de terribles tourments. Je sentis mon vif s'ouvrir. Je n'éprouvais aucun désir de former un lien avec un autre animal, mais, sans œil de nuit pour le contenir, il se déployait autour de moi comme les racines autour d'un arbre en quête de nourriture. Telle l'eau qui déborde d'un récipient trop plein cherche où s'écouler, le vif sourdait de moi, sans bruit, en quête d'un contact. Plutôt, j'avais lu dans le regard du prince le besoin qui le rongeait, désir irrépressible d'union et d'affection réciproque. Émanait-il de moi la même impression de privation ? Je fermais mon cœur et forçais mon être à se figer. Ma peine passerait avec le temps. Je me répétais ce mensonge jusqu'à ce que le sommeil s'empare de moi. Je m'éveillai quand la clarté du jour qui tombait par la fenêtre atteignit mon visage. J'ouvris les yeux, mais ne bougeai pas. Après l'obscurité de la tempête, la lumière pâle qui emplissait la chambre me donnait l'impression de me trouver sous l'eau. Je me sentais curieusement vide, comme lorsqu'on entre en convalescence à la suite d'une longue maladie. Je cherchais à saisir un rêve fuyant, mais n'attrapais que l'image d'une matinée lumineuse, avec la mer à mes pieds et le vent dans mon visage. Je n'avais plus sommeil, mais je ne ressentais nulle envie de me lever pour affronter une nouvelle journée. J'avais la sensation d'être enfermé dans une bulle protectrice et de pouvoir faire perdurer ce moment de paix à condition de rester parfaitement immobile. J'étais couché sur le flanc, le bras et la main sous l'oreiller plat. Au bout de quelque temps, je pris conscience de la présence des plumes sous mes doigts. Je levai la tête pour les observer, mais la pièce se mit tout à coup à danser autour de moi, comme si j'avais trop bu la veille, et les réalités du jour à venir, la longue chevauchée jusqu'à Castelserre, l'entretien qui s'ensuivrait avec Ketriken et Imbre, la reprise de ma vie ordinaire sous l'identité de Tom Blaireau, tout cela s'abattit brutalement sur moi. Je me redressai lentement. Le prince dormait toujours. Je me retournai et vis le fou qui me regardait d'un œil ensommeillé, allongé sur le côté dans son lit, le menton appuyé sur son poing. Il avait l'air fatigué, mais insupportablement satisfait de lui-même. Il paraissait beaucoup plus jeune. « Je ne pensais pas te découvrir dans ton lit ce matin, » dis-je. « Au fait, comment es-tu entré ?»« J'avais mis le verrou. »
« Ah, intéressant. Cependant, tu ne peux assurément pas t'étonner davantage de me trouver dans mon lit que moi de te voir dans le tien. »
Je laissai passer sa pique et grattai le chaume qui couvrait mes joues.
« Il faudrait que je me rase, » fis-je.
Cette perspective ne me réjouissait pas. Je n'avais pas touché à ma barbe depuis notre départ de Castelmyrte.
« En effet. » J'aimerais que nous revenions à Castelserre aussi présentable que possible.
Je songeais à ma chemise que la Marguette avait réduite en lambeaux, mais acquiesçais néanmoins. Soudain, je repensais aux plumes. « J'ai quelque chose à te montrer, » dis-je en glissant la main sous mon oreiller. Mais à cet instant, le prince poussa un grand soupir et ouvrit les yeux.
« Bonjour, mon prince, » fit Sire Doré.
« Bonjour. »
répondit l'intéressé d'une voix endormie.
« Sire Doré, Tom Blaireau. »
À le voir et à l'entendre, il paraissait un peu mieux que la veille, à la fin de notre journée de cheval. En outre, il avait repris ses distances avec moi et j'en fus soulagé.
« Bonjour, mon prince, » dis-je à mon tour.
Et la matinée commença. Nous prîmes notre petit déjeuner dans la chambre, après quoi on nous monta nos vêtements nettoyés et raccommodés. Sire Doré retrouva presque toute sa splendeur passée, et le prince prit une apparence, sinon royale, du moins soignée. Comme je m'y attendais, même lavé, mes habits avaient piètre allure. Je demandai une aiguille et du fil au domestique, qui nous avait apporté notre repas en prétextant que je souhaitais resserrer les poignets de ma chemise. En réalité, je voulais y fixer une poche intérieure. Le seigneur Doré poussa un soupir en me regardant.
« Vous habillez convenablement risque de se révéler pour moi l'aspect le plus onéreux de votre emploi comme valet, Tom Blaireau. Enfin, occupez-vous le mieux possible du reste de votre personne. »
J'étais le seul qui eut besoin de se raser. Sire Doré commanda de l'eau chaude, un rasoir et un miroir, puis il s'assit à la fenêtre et contempla la bourgade pendant que je me mettais au travail. J'avais à peine commencé que je pris conscience du regard scrutateur du prince posé sur moi. Pendant un moment, je fis semblant de ne pas me rendre compte de son observation fascinée, mais à la deuxième fois que je m'entaillais la peau, au lieu de jurer, je lui demandai sèchement.
« Qu'y a-t-il? Vous n'avez jamais vu quelqu'un se raser ?»
Il rougit légèrement.
« Non. »
Il ajouta en détournant les yeux. « Je ne fréquente guère les hommes. » Oh certes, je dîne avec les nobles, je pratique la chasse aux faucons avec eux, et je m'entraîne à l'épée avec d'autres garçons de bonne famille, mais... » Il parut soudain déconcerté et se tut. Tout aussi brusquement, Sire Doré quitta son siège devant la fenêtre.
« J'ai envie de visiter un peu la ville avant notre départ. Je crois que je vais y faire un tour, avec la permission de mon prince. »
« Naturellement, seigneur Doré, comme il vous plaira. » Il sortit. Et je pensais que devoir allait l'accompagner, mais non. Il resta pour me regarder, tandis que j'achevais de me raser. Alors que la peau cuisante, je passais de l'eau sur mon visage pour faire disparaître les dernières traces de savon, il demanda avec une intense curiosité. «
Ça fait donc mal ?
Ça pique un peu. Mais seulement si on va trop vite, comme moi, et qu'on se coupe au passage. Mes cheveux, que j'avais taillés en signe de deuil, se dressaient sur ma tête en paquet hirsute. Ma première pensée fut qu'Astérie aurait pu me les recouper. Puis je chassai vivement cette idée et aplatis ma tignasse en la mouillant. Ça ne tiendra pas? Une fois sec, vos cheveux vont se hérisser à nouveau? Fit le prince à mon grand agacement. Je sais, mon prince.
Éprouvez-vous de la haine pour moi?
Il avait posé la question d'un ton si naturel que j'en demeurais décontenancé. Je posai ma serviette et soutins son regard grave. Non, je n'éprouve pas de haine pour vous.
Je comprendrai, vous savez, à cause de votre loup et du reste.
Œil de nuit. Œil de nuit.
Il prononça le nom avec soin, puis détourna soudain les yeux.
Je n'ai jamais su comment s'appelait ma Marguette.
Je sentis que les sanglots menaçaient de l'étouffer. Je ne bougeai pas et attendis qu'il se ressaisisse. Au bout d'un moment, il prit une longue inspiration.
Moi non plus, je ne vous en veux pas. J'en suis heureux.
Avouai-je. Puis j'ajoutai, c'est la Marguette qui m'a demandé de la tuer. J'avais eu beau faire, j'avais pris un ton défensif.
Je sais. Je l'ai entendu.
Il eut un reniflement qu'il tenta de déguiser en toussotement.
Et elle vous y aurait forcé, de toute façon.
Elle était bien décidée. Je m'en suis rendu compte, répondis-je avec une grimace en portant la main au bandage que j'avais refait autour de mon cou. De manière inattendue, le prince sourit et sans le vouloir, je lui rendis son sourire. Il posa la question suivante d'un ton précipité, comme s'il y attachait une grande importance, si grande qu'il redoutait la réponse.
« Allez-vous rester ?»«
Rester ? » ?»«
Aurais-je l'occasion de vous revoir à Castelcerf ?»
Il s'assit tout à coup en face de moi et planta franchement son regard dans le mien, à la façon de vérité.
« Tom Blaireau, voulez-vous me former ?»
Humbre. Mon vieux maître avait formulé la même requête et j'avais eu le courage de dire non. Le fou, mon ami de toujours, m'avait demandé de retourner à Castelcerf et j'avais refusé. Si la reine en personne m'avait posé la même question, j'aurais encore réussi à répondre par la négative. Mais, face à l'héritier des loin-voyants, je ne pus que déclarer « Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Ce que votre père m'a enseigné, il l'a fait en secret, et il avait rarement le temps de me donner des leçons. » Il prit un air grave.
« Existe-t-il une seule personne qui en sache davantage que vous sur l'art ?»«
Non, mon prince. » Je me retins d'ajouter que j'avais tué tous les autres. Et pourquoi avais-je employé son titre? Je l'ignorais. Un je ne sais quoi dans son attitude m'y avait poussé.
Vous voici donc maître d'art par défaut?
Non. À cela j'avais pu répondre, et ma langue avait réagi aussi promptement que ma pensée. Je pris une grande inspiration et me jetai à l'eau.
Très bien, je vous formerai, dis-je.
Mais à la façon de votre père, quand je le pourrai, et dans la mesure de mes connaissances, et en secret. Sans répondre, il me tendit la main pour sceller notre accord, et il se produisit un double échange à l'instant où nos paumes entrèrent en contact.
Vous m'apprendrez l'art et le vif, précisa le prince.
Et en même temps, l'étincelle d'art qui nous unissait chanta.
Je vous en prie.
Sa supplique était formulée de façon maladroite, transmise par le vif et non l'art.
Nous verrons, répondis-je.
Je regrettais déjà ma décision.
Vous risquez de changer d'avis. Comme professeur, je ne suis ni doué ni patient.
Peut-être, mais vous me traitez comme une personne et non comme le prince, comme si vous exigiez plus d'un homme que d'un prince.
Je ne répondis pas et attendis qu'il poursuive sans le quitter des yeux. Il reprit d'un ton hésitant, comme humilié de son aveu.
Pour ma mère, je suis un fils, mais aussi et toujours le prince et l'oblat de mon peuple. Et pour tous les autres, je suis le prince un point c'est tout. Je ne suis le frère de personne, le fils d'aucun père, le meilleur ami de personne.
Il éclata d'un rire étranglé.
Sous l'appellation « mon prince », je suis très bien traité, mais il existe toujours une barrière. Nul ne me parle comme, ma foi, comme je me parle moi-même.
Il haussa les épaules et un pli amer tordit ses lèvres.
À part vous, personne ne m'a jamais dit que j'étais stupide, même quand je me conduisais comme le dernier des crétins.
Je compris soudain pourquoi il s'était prêté si facilement aux manigances des pies. Il voulait être aimé, aimé sans peur, comme un égal. Il voulait devenir le meilleur ami de quelqu'un, même si ce quelqu'un n'était qu'une marguette. Je me rappelais une époque où j'étais convaincu qu'Imbre seul pouvait me donner cette reconnaissance, et je n'avais pas oublié la terreur que m'inspirait l'idée de la perdre. Tout adolescent, qu'il soit prince ou mendiant, en avait besoin, je le savais, mais je n'étais pas sûr d'être la personne idéale auprès de qui la chercher. Mais pourquoi donc n'avait-il pas choisi Imbre? Je m'efforçais de trouver une réponse à cette question quand on frappa à la porte. Je l'ouvris et me trouvai devant Laurier. Par réflexe, je regardai derrière elle en m'attendant à voir Sire Doré, mais il n'était pas là. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, l'air un peu perplexe, puis revint à moi. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle d'un ton un peu caustique. « Naturellement, madame, je pensais seulement... » Elle passa la porte et la ferma derrière elle, puis elle examina un instant de voir avant de lui faire une révérence, avec sur le visage une expression proche du soulagement.
« Bonjour, mon prince, »
lui dit-elle avec un sourire.
« Bonjour, grand-veneuse. »
Son ton était formaliste, mais au moins il avait répondu. Je le regardai et compris soudain ce qu'elle avait vu en lui. Il était redevenu lui-même. Sa mine était sombre, ses yeux cernés, mais il était présent. Il n'était plus perdu dans ses propres tréfonds, si loin qu'il en était inaccessible.
« Je me réjouis de vous voir si bien remis, mon prince. Je viens vous demander si vous souhaitez que nous nous mettions en route pour Castelserre. Le soleil monte et la journée s'annonce belle, quoique froide.
Je laisse à Sire Doré le soin d'en juger. »«
Excellente décision, mon prince. »
Elle parcourut la pièce du regard. « Le seigneur Doré n'est pas ici ?»«
Il nous a dit qu'il allait faire un tour, » répondis-je.
Elle tressaillit comme si une chaise s'était adressée à elle, et je pris conscience de mon erreur. En présence du prince, jamais un simple valet comme moi n'aurait la présomption de prendre la parole de son propre chef. Je baissai le nez afin de dissimuler mon air contrit, et je résolus une fois de plus de coller au plus près à mon rôle.
Avais-je donc oublié les leçons d'Imbre ?
Laurier jeta un coup d'œil à Devoir, mais il conserva le silence.
« Je vois, » fit-elle.
« Naturellement, si vous le souhaitez, vous pouvez l'attendre ici, grand-veneuse. » Son ton exprimait exactement le contraire de ses paroles. Je n'avais plus entendu personne pratiquer cet exercice avec autant de maîtrise depuis l'époque où Subtil était roi.
« Merci, mon prince, mais si vous le permettez, je crois que je vais regagner ma chambre en attendant qu'on me fasse chercher. »
« Comme vous voudrez, grand-veneuse. »
Il s'était tourné face à la fenêtre.
« Merci, mon prince. » Elle fit une petite révérence dans son dos, puis alors qu'elle se dirigeait vers la porte, nos regards se croisèrent fugitivement, mais je ne lus rien dans le sien.
Une fois qu'elle fut sortie,
Devoir se retourna vers moi.
« Là, vous voyez ce que je veux dire, Tom Blaireau ?»«
Elle ne s'est pas montrée désagréable avec vous, mon prince. »
Il se rassit à la table et me fit signe de l'imiter. Comme je m'installais en face de lui, il répondit.
« Elle s'est montrée parfaitement insipide, à l'instar de tous les autres. Comme il vous plaira, mon prince. Je n'ai pas un seul véritable ami dans les six duchés. »
Je me tus un instant, puis demandai. « Et ceux qui vous accompagnent quand vous sortez à cheval ou à la chasse ? »
« J'en ai beaucoup trop. Je dois les qualifier tous d'amis et ne montrer de préférence pour aucun, de peur que le père d'un autre ne se sente lésé. »
Il se leva pour arpenter la chambre.
Et que dame garde de sourire à une femme? Si je fais mine de nouer la moindre amitié avec une jeune fille, on la fait disparaître de ma vue. Car d'aucuns risquent d'interpréter mon intérêt pour elle comme une cour en règle. Non.
Il se rassit lourdement sur sa chaise. Je suis seul, Tom Blaireau. Pour toujours. Il poussa un grand soupir et se perdit dans la contemplation de ses mains posées au bord de la table. Son attitude était un rien trop théâtral pour un garçon de son âge. Je ne pus retenir ma langue. Qu'il est donc malheureux, ce pauvre petit garçon privé de tout. Il leva la tête et me foudroya du regard. Je restai imperturbable, et un sourire naquit peu à peu sur ses lèvres. « C'est parler en véritable ami, » dit-il enfin. À ce moment, Sir Doré apparut à la porte. Il me montra entre ses longs doigts un tube à courrier d'oiseaux messagers, puis le fit disparaître aussitôt dans sa manche. Évidemment, il était allé trouver Astérie pour voir si elle avait reçu des nouvelles de Castelserre, et il n'avait pas été déçu. Imbre devait déjà tout préparer pour notre retour. Le fou avait naturellement vu le prince assis en face de moi, mais s'il jugea curieux de trouver l'héritier des loin-voyants à table en ma compagnie, en train de me regarder coudre la manche de ma chemise, il n'en manifesta rien. Rien non plus dans son attitude ne laissa transparaître qu'il s'était adressé à moi à son entrée. Toute son attention se portait sur le prince quand il dit « Bonjour, Majesté, s'il vous agrée, nous pouvons partir sur le champ. » Devoir prit une longue inspiration résignée. « Il m'agrée, Sire Doré. » L'intéressé se tourna vers moi avec un sourire que je ne lui avais plus vu depuis des jours. « Vous avez entendu notre prince, Tom Blaireau. Allons, d'une aire, préparez nos affaires, et cessez donc votre raccommodage, mon ami, du moins pour le présent. Il ne sera pas dit que je suis un maître pingre, même pour un valet aussi lamentable que vous. Enfilez donc ceci, afin de ne point nous faire honte sur la route de Castelserre. » Et il me jeta un paquet, qui se révéla contenir une chemise de gros drap beaucoup plus solide que la guenille que je tenais entre les mains. Autant pour la poche que je comptais coudre dans ma manche. « Tous mes remerciements, monseigneur, » déclarai-je d'un ton humble et reconnaissant. « Je m'efforcerai d'en prendre soin davantage que des trois dernières. »« J'y compte bien. Mettez-la, puis courez prévenir maîtresse Laurier que nous partons bientôt. En descendant aux écuries, où vous demanderez qu'on apprête nos montures, arrêtez-vous aux cuisines et commandez-nous un déjeuner à emporter. » Quelques volailles froides, une tourte à la viande, deux bouteilles de vin et quelques miches fraîches, dont j'ai senti l'arôme en rentrant. « Comme il vous plaira, maître, » répondis-je. Comme je tirais ma nouvelle chemise sur ma tête, j'entendis le prince demander d'un ton aigre. « Seigneur Doré, est-ce vous qui me prenez pour un idiot, pour me jouer cette comédie, ou bien obéissez-vous aux souhaits de Tom Blaireau ?» Je terminai rapidement de passer le col de ma chemise, car je n'aurais voulu manquer pour rien au monde l'expression de Sire Doré, mais ce fut le fou que je vis, un sourire radieux aux lèvres. Il faisait une révérence extravagante à devoir, en effleurant ses genoux d'un chapeau imaginaire. En se redressant, il me regarda d'un air triomphant, et malgré ma perplexité, je ne pus m'empêcher de lui retourner un sourire complice. Après quoi il répondit « Noble prince, ce n'est ni mon souhait, ni celui de Tom Blaireau. Mais celui de Sire Imbre. Il désire que nous nous exercions autant qu'il nous est possible, car de piètres comédiens comme nous ont besoin d'innombrables répétitions s'ils veulent abuser, ne serait-ce qu'un spectateur ou deux. »
Ah, Sire Imbre, j'aurais dû me douter que vous travailliez tous deux pour lui.
Je constatai avec plaisir qu'il s'abstenait de révéler que je le lui avais déjà appris. Il commençait à apprendre la discrétion. Il posa sur le fou un autre regard, perçant et empreint de méfiance, et ses yeux se déplacèrent pour m'y inclure.
« Mais qui êtes-vous donc ? » fit-il à mi-voix. « Qui êtes-vous tous les deux ?»
Sans réfléchir, le fou et moi, nous nous regardâmes. Cet échange muet irrita le prince. Je m'en rendis compte à la couleur qui monta lentement à ses joues. Cependant, au-delà de la colère, tout au fond de ses yeux, se tapissait sa crainte d'adolescent de s'être ridiculisé devant moi. Lui avais-je arraché sa confiance grâce à une comédie?
L'affection qui existait entre le fou et moi excluait-elle d'avance toute amitié que j'aurais pu nouer avec lui? Je sentis sa sincérité se refermer, et je le vis se retirer derrière le rempart de son rang. Enfreignant toutes les règles du protocole, je saisis vivement sa main par-dessus la table. Par ce contact, je m'ouvris à lui en toute franchise. Et cherchai à le convaincre, grâce à l'art, tout comme Vérité avait autrefois conquis la confiance de sa mère. C'est un ami, mon prince. Le meilleur que j'ai jamais eu, et le meilleur que vous aurez sans doute jamais, vous aussi. Sans quitter de voir des yeux, je tendis ma main libre vers le fou. Je l'entendis s'approcher du prince, et un instant plus tard, je sentis ses longs doigts nus se glisser dans les miens. Je les attirai vers la table, et ils se refermèrent sur ma main et celle du prince enlacée.
« Si, vous voulez bien de moi, » dit le fou avec humilité, « je vous servirai comme j'ai servi votre père et votre grand-père. »